Alors nous continuons notre série Un voyage dans l'Exode, deuxième livre de la Bible, du Pentateuque, des cinq premiers livres de la Bible, avec Moïse, hein, le prince d'Égypte, le buisson ardent, le désert, la sortie d'Égypte. Mais comme dans Arte, et maintenant, non pas une annonce, une histoire. Nous avons été assez proches de l'Illinois pendant les années 90-2000. Yvonne a fait ses études dans l'Illinois, Tamara, notre fille aînée, également, Julien un petit peu. Et puis il y avait une église qui nous intéressait, la famille était un petit peu dans le coin. Et l'Illinois, c'est l'Illinois, et la capitale, c'est Chicago. Et j'ai entendu cette histoire du maire de Chicago dans les années 60-70. J'ai lu cette histoire. Il s'appelait le maire Daley, et il était connu pour être un homme, ce maire de Chicago, un personnage haut en couleur. Il était connu pour être un homme assez dur aussi avec son personnel. Et un jour, un membre de l'équipe de rédaction des discours du maire vient le voir pour demander une augmentation. Le maire Daley n'aimait pas ce genre de demande. Et il lui dit: « Je ne vais pas vous donner une augmentation, vous êtes déjà suffisamment payé, et en plus ça devrait vous suffire de travailler avec ce grand héros américain que je suis. » Fin de l'histoire. Ou presque. Deux semaines après, le maire Daley est sur le point de donner un discours à la convention des vétérans. Et cette convention est suivie avec attention par tout le pays et par tous les médias. Il y a une couverture médiatique absolument nationale, incroyable. Le maire Daley était aussi connu pour ne jamais lire les discours avant de les prononcer. Et donc le maire de Chicago s'avance au pupitre de cette convention des vétérans qui reçoit une couverture nationale, comme je l'ai dit. Alors il parle tout d'abord des vétérans dans le pays, de l'importance des vétérans dans le pays. « Je me sens concerné par vos besoins et mon cœur est pleinement avec vous. Je suis profondément convaincu que notre nation doit prendre soin de ses vétérans et ainsi je vous propose un plan qui inclut la ville, l'État de l'Illinois et le gouvernement fédéral. Et ce plan contient 17 points qui visent à améliorer la situation des vétérans de ce pays et je vous les dévoile à présent. » Et il tourne la page de ces feuilles et il n'y a qu'une seule phrase écrite à la deuxième page. « Maintenant, tu te débrouilles tout seul au grand héros américain. » Et vous devinez qui a écrit le discours. C'est un peu ça qui va arriver à Moïse. Maintenant, il va devoir se lancer sur la scène publique. Débrouille-toi devant les responsables d'Israël et surtout débrouille-toi devant le Pharaon. Mais il n'est pas tout seul. On l'a vu devant son objection à son envoi, après avoir reçu l'appel, il dit « Qui suis-je, moi, pour aller parler à Pharaon ?» Et Dieu lui promet d'être avec lui. Et un peu plus loin, suite à sa troisième objection, si je m'en souviens bien, qui fait état de son problème d'élocution, peut-être qu'il était bègue, Abraham, en tout cas il avait la parole embarrassée, un euphémisme. La parole embarrassée, Dieu, parce que c'est la troisième objection à son appel, à son envoi, se met en colère, le texte nous le dit. Mais Dieu lui dit, écoute, il y a Aaron qui est beaucoup plus à l'aise pour parler en public que toi, ton frère Aaron, et il va être mon porte-parole. D'ailleurs, et ça c'est une phrase magnifique, d'ailleurs, il est déjà en route. Aaron était en Égypte, là ils sont à Horeb, au Sinaï. D'ailleurs, il est déjà en route. Dieu, c'est comme si Dieu avait tout prévu, qu'il avait prévu l'objection de Moïse et qu'il avait prévu l'envoi d'Aaron. Dieu donne ce qu'il ordonne. disait saint Augustin. Dieu équipe Moïse pour son envoi et il lui donne des signes de piste. Et vous connaissez peut-être, en tout cas, l'histoire du bâton qui se transforme en serpent dans la main de Moïse. Il ne s'agit pas de prestidigitation, c'est dur à dire, hein, mais j'y suis arrivé, peut-être avec une erreur. Mais c'est des signes forts que Dieu veut donner à Moïse pour s'opposer aux magiciens puissants, du pharaon puissant, de l'Égypte puissant dans sa magie. Et là aussi, par rapport à ce bâton, il y a une question qui a l'air anodine, mais qui est magnifique et qui montre toute la délicatesse et la sollicitude de Dieu. Aaron, plein de doutes et de questions et d'objections, Aaron, plein de doutes et de questions, Dieu lui dit, qu'as-tu dans la main ? Et Aaron a en main ce bâton. Et ce bâton, pour Moïse, sera le signe de la puissance de Dieu. Mais cette question se pose à d'autres. Qu'avez-vous en main ? Eh bien, qu'avez-vous sous la main ? Eh bien, certains diraient, André, un des disciples, eh bien, on a 5 pains et 2 poissons. C'est tout ce qu'on a sous la main. Pour nourrir 5 000 hommes, ça va être un peu compliqué. Mais Jésus organise et on ramènera 12 corbeilles en surplus, remplies de pain. Et puis, qu'avez-vous en réserve ? Eh bien, on a 6 jarres vides de 100 litres chacune. Et Jésus va dire, ça va être un petit peu... Non, il ne va pas le dire. Il va dire, ben, remplissez d'eau ces jarres. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec 600 litres de flotte ? Et Jésus va les transformer en vin. Dieu est un multiplicateur. Dieu transforme les mauvaises ambiances ou des fêtes qui courent vers un fiasco en vraies fêtes. Mais il nous faut regarder ce que nous avons en main. Et parfois, on regarde ses mains, ben, j'ai rien en main, mais j'ai peut-être juste mes mains. Parfois, nous ne sommes que des porteurs d'eau ou de quelques pains et des poissons, mais on les met au service de Dieu et il en fait de belles choses. Qu'avez-vous en main ? Peut-être pas grand-chose, mais ça va suffire. Alors, Moïse est préparé pour la mission. Il a reçu une révélation assez exceptionnelle, le buisson ardent, je suis celui qui est, ou je suis, ou je serai qui je serai. Et ce nom reçu par Moïse, et pour tout le peuple d'ailleurs, va accompagner Moïse dans sa mission. Dieu, le Dieu qui s'appelle « Je suis » t'envoie vers le Pharaon. C'est... Oui. Et il t'a donné Aaron à tes côtés, il t'a donné les signes de la puissance, ça devrait suffire maintenant, Moïse, ça devrait suffire. Allez, vas-y, il est temps de commencer dans le service public, je veux dire le ministère public, mais c'est la même chose, n'est-ce pas ? Ministère, service. Et donc Moïse commence ce ministère public et Moïse et Aaron s'en retournent en Égypte et rencontrent les responsables d'Israël et ils sont plutôt bien reçus. Lisez avec moi, on est dans Exode 4. Ils partirent donc, Moïse et Aaron. Une fois arrivés, ils convoquèrent tous les responsables du peuple d'Israël. Aaron leur répéta tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Hein, Aaron fait le travail et il accomplit les signes miraculeux aux yeux du peuple. Et le peuple fut convaincu. En apprenant que l'Éternel intervenait en faveur des Israélites et qu'il avait pris leur détresse en considération, ils se prosternèrent et l'adhèrent. Et il est convaincu, on pourrait traduire, le peuple crut. Il y a un acte de foi. Ils y croient. Ils se mettent à adorer Yahvé même. Il se passe quelque chose. Mais, parce que la parole de Moïse est crédible. Mais, bientôt, Voilà ce que nous lisons quelques versets plus loin. En sortant de chez le Pharaon, les surveillants des travaux, qui sont des Israélites, hein, il y a les chefs de corvée qui sont égyptiens, les surveillants des travaux qui sont israélites, s'en prirent à Moïse et à Aaron qui les attendaient. Et ils leur dirent que l'Éternel constate ce que vous avez fait et en soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses gens ne peuvent plus nous supporter. Vous leur avez mis l'épée en main pour nous tuer. Vous leur avez donné le bâton pour nous battre. Alors, on peut être d'un naturel objectif, mais on doit forcer de constater que pour Moïse, c'est un échec. Un échec patent, un échec cuisant. La situation, au lieu de s'améliorer, parce qu'il est envoyé pour ça quand même, hein, pour délivrance d'Égypte, du pays d'Égypte, elle va empirer. Et c'est le titre du message ce matin, quand la situation empire au lieu de s'améliorer. Et elle s'empire parce que le Pharaon refuse d'entendre Moïse et Aaron qui lui demandent de laisser partir son peuple. Let my people go. Mais le Pharaon refuse. Le Pharaon répondit : qui est l'Éternel ? Qui est ce Yahvé ? Moi, je ne connais pas ce Yahvé. Pour que je lui obéisse en laissant partir d'ici les Israélites, je ne le connais pas. Ainsi, je ne le laisserai pas partir. Et le Pharaon va s'endurcir. Et on va parler plus tard, d'ici quelques semaines, de cet endurcissement de Pharaon, que si vous avez lu ce récit de l'Exode, pose question. Mais on en parlera une autre fois. Non seulement il va s'endurcir, mais il va durcir le ton, il va augmenter les corvées, et il va supprimer la paille, mais demander le même quota de production de briques pour les Israélites sous l'oppression. Il va harceler le peuple hébreu, il va mettre la pression. Et donc il va aussi opposer une fin de non-recevoir aux demandes de Moïse. Et on voit poindre dans ce récit, et vous avez que le combat dépasse un petit peu les personnes. Il s'agit d'un combat un peu d'autorité. On a d'un côté les chefs de corvée et les surveillants sortir et aller informer le peuple en disant « Le Pharaon a déclaré. Le Pharaon déclare. » Mais un peu au-dessus, « Voici ce que dit l'Éternel, disent Moïse et Aaron. » C'est une question d'autorité. C'est une question de souveraineté. C'est une question d'allégeance. À qui vais-je reconnaître l'autorité sur ma vie ? Pour ceux qui vivent cela, cet échec, c'est l'échec, le refus de Pharaon, c'est très difficile et ils perçoivent comme si leur situation empire au lieu de s'améliorer, et c'est un fait. Et à cause de vous, le Pharaon et ses gens ne peuvent plus vous supporter. Littéralement, nous sommes devenus puants. On ne va pas dire aux yeux du Pharaon, mais au nez du Pharaon. Tu nous as rendus puants au nez de Pharaon. On était mieux avant que tu n'arrives dans nos vies. Et cela dure. Plus tard, Moïse répéta ces paroles aux Israélites, mais ils ne l'écoutèrent pas parce qu'ils étaient démoralisés à cause de leur dur esclavage. Et ce récit de l'Exode vient nous rejoindre, n'est-ce pas ? Au cours des années, j'en parlais avec Yvonne, hier, pour qu'elle confirme mes pensées, mais on a rencontré pas mal de personnes qui nous disaient cette phrase, au premier abord un petit peu bizarre, mais qui disaient « Depuis que je suis devenu chrétien, la vie est devenue plus difficile pour moi. J'ai plus de problèmes. Et on a un ami dans l'église de Pau qui s'appelle Philippe, mais vous n'allez pas le retrouver parce qu'il y a au moins 8 Philippe dans l'église de Pau, qui nous disait, il s'est converti à l'âge de 50 ans, il dit, oui, depuis que je suis chrétien, j'ai plus de problèmes. Et on lui demandait pourquoi. Il dit, parce que avant, je cite, je m'en foutais. Mais il ne s'en fout plus. Et il a des choix à faire, il a des décisions à prendre, il a des choses qui doivent s'arrêter, des choses qui doivent s'améliorer dans sa vie, et c'est un petit peu difficile, parce que certains problèmes dont il n'avait pas conscience, il en a conscience maintenant, des défis aussi, et aussi la réponse à cette question, pourquoi il y a des gens qui disent que c'était plus facile avant, c'est parce que tout simplement, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et que la situation peut empirer au lieu de s'améliorer. Que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, mais plutôt un peu comme les rapides, les rivières, avec les rapides dans le nord du Canada, avec des passages très compliqués, avec des rochers qui affleurent, avec aussi des temps où tu dois mettre pied à terre pour porter ton canoë, qui s'appelle des portages. Et pour déterminer la durée d'un voyage, avec leur canoë, les trappeurs canadiens demandaient combien de portages. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais la vie est faite de rapides, avec des rochers et des portages. On est très loin des annonceurs de l'évangile de prospérité, pour qui être chrétien serait une succession de bénédictions en tout genre, financières, mais aussi au niveau de la santé. On passe de guérison en guérison. Évangile de la prospérité. Tu seras protégé, nous dit-on. Eh bien non, la situation peut même empirer, se dégrader. On est loin aussi du pays promis, ruisselant de lait et de miel. La promesse subsiste, mais on n'y est pas encore, ils n'y sont pas encore et nous n'y sommes pas non plus. Nous sommes entre le déjà et le pas encore. Nous avons déjà des bénédictions, oui. Nous avons, dit le Nouveau Testament en Romains, reçu les arts de l'esprit, la caution, l'acompte de l'esprit, l'avant-goût de l'Esprit qui nous permet de vivre cette vie chrétienne. Nous avons reçu la communauté chrétienne, qui est une bénédiction, qui nous enrichit, je l'espère, qui m'enrichit moi, en tout cas. Et nous avons reçu la présence de Christ en nous par son Esprit, de ce Christ mort et ressuscité. Mais nous sommes encore dans le pas encore de la résurrection finale. Nous attendons, dit l'Épître aux Romains. Et le verset de 2 Corinthiens 5, 1 à 2, « Nous savons en effet que nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Ainsi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre nature céleste, notre domicile céleste. Nous gémissons dans notre tente. » Je ne sais pas si vous avez vu le Tour de France, il y a plein de tentes quechua, surtout dans les Pyrénées, je crois dans les Alpes aussi il y en avait. Chacun sa tente, et la tente, c'est le signe d'un voyage, le signe d'une certaine fragilité, du fait que c'est temporaire, mais signe d'un voyage comme dans l'Exode. Nous gémissons dans notre voyage. Nous soupirons. Nous sommes dans le déjà, entre le déjà, il y a des choses, et le pas encore, que la Bible appelle la consommation finale. Je ne sais pas qu'on va consommer, mais tout sera accompli. C'est important. Alors, la situation peut empirer, soit. Mais qu'en penser? Et que fait Moïse? Eh bien, il va avoir un réflexe salutaire, il va se tourner vers Dieu. Il va, disent quelques versions, il va tout simplement prier Dieu, s'adresser à Dieu, se tourner vers Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure. Et la prière de Moïse est assez exceptionnelle. On la lit ensemble. Alors Moïse se tourna vers l'Éternel et lui dit, « Ô Seigneur, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple ? Pourquoi donc m'as-tu envoyé ici ? Depuis que je suis venu trouver le Pharaon pour lui parler en ton nom, il a maltraité ce peuple et toi, tu n'as rien fait pour délivrer ce peuple. » Et nous avons là la prière type d'un type ou d'un gars qui doute de tout, mais qui s'adresse quand même à Dieu. Une prière violente. Une prière quasi hérétique. Vous l'avez lu ? Pourquoi donc fais-tu du mal à ce peuple ? Il accuse Dieu de faire le mal. On a brûlé des hérétiques pour moins que ça. Et on est très loin du buisson ardent où il reçoit une révélation. Le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Là, Moïse manque de respect. Pourquoi m'as-tu envoyé ? Pourquoi tu fais du mal ? Et surtout, la fin. Et tu n'as rien fait pour le délivrer. Une prière faite d'amertume, de révolte, d'accusation, mais qui frise le manque de respect, qui ne le frise même pas, qui est même dedans, mais qui est terriblement authentique. Et je me dis, combien de personnes ici, ne levez pas le doigt, ont prié en disant, « Tu n'as rien fait. » La réponse de Dieu, parce que Dieu répond, même à de telles prières hérétiques. Et il va répondre au chapitre 6. Alors l'Éternel dit à Moïse, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Un petit peu. Là, Dieu parle comme un ami, Moïse. Tu vas voir ce que je vais faire. Mais Dieu, donc sensible à l'authenticité et qui regarde au cœur, répond et va répondre comme il a fait quelques chapitres, quelques temps plus tôt, en utilisant son nom. « Je suis l'Éternel » trois fois en quelques versets. « Je suis l'Éternel » verset 2. « Et je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob. « Je suis, dit-il, dans la continuité de mon œuvre de délivrance. « Je suis dans la continuité de mon œuvre d'alliance. » Et vous regardez, je me suis engagé, deuxième paragraphe, troisième ligne, je me suis engagé par mon alliance avec eux. Je me suis engagé, dit Dieu, le Dieu souverain, le Dieu infiniment libre, s'engage. Je me suis engagé par mon alliance avec eux et avec toi. Dieu est libre, mais il n'est pas versatile. Par rapport à ses alliés, par rapport à ses alliés, comme le font certains personnages politiques aujourd'hui, qui changent leur accord quand bon leur semble, je ne parle pas de Trump, mais presque, mon Dieu, Yahvé est engagé. Le « je suis » ne va pas abandonner la partie « et toi, petit Moïse ?»« Et toi, petit Moïse, et ta langue embarrassée ?» Tu es dans mon projet de salut pour le monde. Tu fais partie d'une grande histoire, une histoire d'alliance, une histoire d'amour, une histoire de fidélité qui te dépasse un petit peu parfois. Ben oui, je suis transcendant malgré tout, dit Dieu. Mais crois-moi, dit Dieu encore, à tous les petits Moïse que nous sommes, tu peux me faire confiance pour mener cette histoire et ton histoire dans la grande histoire à leur terme. Je suis, verset 6, le deuxième je suis l'Éternel et je vous libérerai de l'esclavage qu'on vous impose et je vous délivrerai par la force de mon bras en exerçant de terribles jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et là, c'est très fort ce que Dieu dit. Il parle de rédemption. Pour la première fois dans la Bible, le mot « délivrer » ou « redimer », comme disait Diego pour un chant à Noël. Ouais, tu as utilisé le mot « redimer », tu l'as même écrit. Je me dis, mais ça n'existe pas. Si ça existe, Diego a toujours raison en ce qui concerne le français. Le mot « redimer »,« redeemer », en anglais. Et là, première fois, en hébreu, le mot Gaal. Je vous délivrerai. Gaal qui vous fait penser à Goël. Goël qui est le proche parent de Ruth et qui est le racheteur et qui lui permet une descendance, qui a le droit de rachat sur les personnes. Et Boaz, qui est ce racheteur, sera avec Ruth dans la généalogie de Jésus. Le rédempteur, le racheteur. Et Jésus est celui-là. Et Christ est notre racheteur, notre rédempteur. Qui est le... Je vous délivrerai par la force de mon bras, à bras étendus. Et Jésus nous délivre avec ses bras étendus sur la croix. Et à l'aide de terribles jugements. Et on sait ce qui va se passer après dans l'Exode par rapport à l'Égypte. Mais Jésus, lui, sur la croix, va prendre sur lui ce terrible jugement. Dieu lui-même prend ce jugement à bras étendus sur la croix. Et au lieu de... Jésus nous dit, au lieu de dire « Tu vas voir ce que je vais faire », il nous dit « Tu as vu ce que j'ai fait. Tu as vu ce que j'ai fait. Je suis ton racheteur. Je suis ton rédempteur. Je te délivrerai de l'esclavage du mal. » Et pour terminer cette deuxième partie, la promesse de Dieu d'être leur Dieu et qu'ils seront son peuple. Et là aussi, c'est la première fois que ça apparaît dans la Bible. « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et on pense, et ce ne sera pas la dernière, on pense à Apocalypse 21. « Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni larmes, ni lamentation, ni plainte. Mais ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » En Christ, la promesse est pleine et entière. Et puis le dernier, « Je suis... » Je vous prendrai pour mon bras, non, c'est pas ça, en fait, et je vous donnerai le pays promis. Dieu tient ses promesses, il est je suis. Alors, on est peut-être un petit peu déçu par la réponse de Dieu. En fait, il nous semble qu'il se répète, n'est-ce pas? Si vous étiez là la semaine dernière et les autres dimanches où on a parlé de l'Exode, il n'annonce pas grand-chose de nouveau, il répète simplement la fidélité à son alliance, la continuité de son projet, la solidité ou de sa sensibilité, ou sa sensibilité et sa préoccupation pour son peuple. Et il fait bien de répéter. Parce que lorsque la situation empire, nous aurions tendance, de façon volontaire, ou semi-consciente ou carrément inconsciente, nous aurions tendance à oublier qui est Dieu et ce qu'il fait et ce qu'il a fait. Et ce Dieu qui nous a délivrés, qui est en train de le faire et qui le fera, rappelle-toi, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de ton passé, de ton présent, de ton avenir, rappelle-toi l'importance de... du rappel et de la répétition de la part de Dieu. J'aime aussi dans l'épître de Paul aux Philippiens ce rappel. Paul va dire « Je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses, mais pour vous, c'est une sécurité. Ou ça vaut mieux pour vous. » Et vous savez de quoi il parle? C'est quoi ces choses? Il parle dans Philippiens de la joie. Et Paul répète. Et c'est pour nous une sécurité, il répète son encouragement à la joie. Souviens-toi de la joie de la délivrance, souviens-toi de la joie du salut. Je termine. Il y avait le chemin Israël, vous savez, Deutéronome 6, écoute Israël et le rappel, garde-toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. L'importance du souvenir, il y a même des t-shirts ou des sweatshirts vendus avec le chemin Israël. Pour les Juifs, l'importance est centrale dans le culte juif. Mais pour finir, une histoire. On a commencé par une histoire, on termine par une histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme missionnaire qui est prête à partir avec son mari en mission en Europe de l'Est. Et lors d'un dernier entretien avec un responsable de la mission, cette femme se met à pleurer et elle parle de ses craintes et des doutes qu'elle a. Elle était inquiète à l'idée d'emmener ses enfants en bas âge, 3 enfants, dans un nouveau pays. Allait-elle s'habituer et surtout, ses enfants pourraient-ils rapidement trouver leur repère dans cette nouvelle culture? Est-ce que nous n'aurons pas, toute la famille, le mal du pays au bout de quelques semaines ou quelques mois? Et on croit parfois que les missionnaires ont reçu un appel spécial qui simplifie tout pour eux. Il n'en est rien. L'appel ne simplifie pas les choses. Ils sont comme nous, les missionnaires, ils sont en proie aux doutes et aux questions. Elle pleurait cette fois. Elle avait peur. Elle était pleine de crainte. Mais à un moment, cette femme a ajouté « J'imagine une mère israélite en train de sortir d'Égypte avec ses enfants. Elle devait, elle aussi, être remplie de doutes. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de traverser le désert avec des enfants en bas âge ?» Elle a dû se poser la question, je cite encore cette femme, « Qui est l'Éternel ?» Pouvait-elle vraiment lui faire confiance, cette jeune femme israélite? Puis les voilà en train de traverser la mer avec des murs d'eau à droite et à gauche. Et cette maman missionnaire fit une dernière remarque. C'est cette histoire qui me donne confiance pour avancer. L'Exode, un voyage qui nous porte. 3 questions pour finir. Yvonne, si tu peux t'approcher et faire quelques notes du chant suivant. Merci. Quel genre de prière voudriez-vous adresser à Dieu maintenant, à ce temps T? Soyez vrai. Quelle parole de Dieu avez-vous besoin de vous rappeler souvent et tout particulièrement? Celle que vous auriez tendance à oublier. Qu'est-ce qui, dans votre histoire avec Dieu, vous donne confiance pour continuer ?